à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est midi, ce journal vous est présenté par Guillaume et Cassandra.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour dans l'actualité ce matin. L'université officialise une brasserie coopérative à Jeanblou. Quel avenir pour nos collègues de la fac agrobiotech? Les caritatifs Tattoo Days ont lieu ce week-end, où partent les fonds récoltés? Réponse avec Chloé Olivier. Le groupe liégeois Eosine a sorti son nouvel EP, pour l'occasion on reçoit Elena, la chanteuse et compositrice du groupe. Hier, la faculté de Jeanblou a inauguré sa brasserie coopérative. De nouveaux bâtiments, de nouvelles bières brassées, mais avec ces installations, quelle finalité pour les étudiants? Un reportage d'Arnaud Van Kronbrugge.
7000 hectolitres brassés chaque année, 6 bières différentes. La brasserie de la faculté de Jeanblou fait peau neuve. La communauté universitaire se réunissait hier en fin d'après-midi pour inaugurer le nouveau bâtiment et son équipement flambant neuf. Un projet dans lequel les étudiants de la faculté d'agronomie ont le plaisir de s'impliquer, comme nous l'explique Timothy Leben, président de l'association des étudiants.
On a un master qui touche plus à l'agroalimentaire. On a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par le milieu de la brasserie. Donc ça permet de directement voir les installations, directement pouvoir tester, voir les outils et les utiliser. Donc, on touche vraiment en fait toute la communauté jeanbloutoise, les anciens étudiants et les trucs même de la faculté et l'université. Donc je sais qu'il y a beaucoup de coopération par rapport à la charpente. Je sais que des tables qu'on a vues tout à l'heure, je les ai vues en préparation dans un TP en maîtrise du bois.
Brassé à l'origine dans les années 80 par les étudiants, pour Éric Auburge, président du conseil d'administration, il n'était pas question de s'impliquer sans eux.
Le souhait était dès le départ de pouvoir, à partir d'une idée et d'une bière que les étudiants ont inventée, pouvoir la produire sur le campus des étudiants, de les faire participer au projet. Vous verrez des étudiants au bar, certains étudiants pourront travailler dans la brasserie également et ils pourront aussi avoir des travaux de fin d'études. La bière est aussi un moyen de communication entre les étudiants.
Et à consommer avec modération.
Ce week-end, en Outre-Meuse, se tiendront les caritatifs Tattoo Days, un événement artistique regroupant une cinquantaine d'artistes tatoueurs dont les bénéfices seront reversés à une ASBL locale, Chloé.
Et oui, Guillaume, durant deux soirées événements, il sera possible d'assister à des concerts et de se faire tatouer. Lever des fonds et rassembler des artistes, voilà les deux buts de l'événement. Rémi Marchal, membre de l'équipe organisatrice, nous en dit plus.
Il y a plusieurs buts. Le premier caritatif qui est d'aider l'ASBL Le Phare, une maison de jeunes qui est là pour les enfants dans le besoin, qui leur apporte du soutien, qui leur permet de partir des fois en vacances, qui leur apporte aussi des infrastructures vraiment pour que les enfants puissent être à l'aise, etc. L'autre but, il est aussi de regrouper de nombreux intervenants du tatouage. C'est un flash day en fait.
Le festival se dit caritatif, mais où vont vraiment les fonds ?
Les tatoueurs touchent 100% de leurs bénéfices. C'est vraiment que le festival en lui-même qui est caritatif. Et nous, on crée vraiment tout l'ensemble, donc les entrées, le bar, etc. Une partie des bénéfices est redistribuée à l'ASBL Le Phare. Aussi, on organise une tombola. Et là, c'est les tatoueurs qui donnent des prints, des bons pour des tatouages, etc. 100% de la tombola est reversée au Phare.
À présent, l'actualité nationale en bref avec toi, Dorine. Le licenciement d'un délégué syndical 7K par ING jugé infondé. La banque va en appel.
En février dernier, ING avait reproché au délégué syndical d'avoir partagé des informations confidentielles. Le syndicat avait démenti et le 7K avait décidé de contester le licenciement. L'auditorat du travail de Bruxelles a déclaré que la demande de licenciement était, je cite, « recevable mais non fondée ». Le contrat d'emploi du travailleur reste suspendu.
Les Belges de plus en plus malades.
L'étude de Sécurex vient de tomber ce matin. Elle est basée sur les données salariales de plus de 200 000 travailleurs. Le pourcentage d'absence au travail dû aux maladies de courte durée et de moyenne durée atteint un niveau record. Cette enquête révèle également que près d'un tiers des congés maladie sont liés à l'épuisement professionnel.
Et maintenant l'actualité internationale avec toi Adrien Takoufo. Au Mexique, 26 corps retrouvés dans des fosses communes.
Ces cadavres ont été trouvés à Tecomán, dans l'état de Colima, selon les autorités. La municipalité est connue pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Sur place, les fouilles se poursuivent et les autorités n'excluent pas la présence d'autres restes humains. De nombreux enterrements clandestins y sont identifiés depuis 2018.
Au Soudan, le cessez-le-feu prolongé à 72 heures alors que la violence s'intensifie.
Déjà plus de 500 morts et des milliers de blessés après 13 jours de combat entre l'armée et les paramilitaires. Pour le contrôle du pays, bombardements, destructions, pillages se sont intensifiés hier au Darfour et à Khartoum. Une nouvelle trêve de 3 jours est annoncée après la précédente non respectée par les deux camps. Ce cessez-le-feu devrait faciliter la circulation de l'aide humanitaire.
Il est midi 5 et vous écoutez toujours 48 FM.
Dans la section culture de ce journal, nous recevons Elena, chanteuse et guitariste du groupe Eosine. Bonjour Elena.
Bonjour Guillaume.
Nous allons discuter de votre nouvelle EP, Coraline, qui vient de sortir. Dream pop, shoegaze, noegaze, ce sont des styles méconnus du grand public. Comment décrirais-tu le style d'Eosine en quelques mots pour nos auditeurs ?
Donc au départ, c'est vrai qu'on s'illustrait vraiment très fort dans le style shoegaze. Donc le shoegaze, c'est un genre qui est apparu dans les années 90, où les guitaristes principalement utilisaient énormément d'effets, donc de la distorsion, la saturation des échos. Et en fait, ils regardaient leurs pieds, donc shoegaze, pour regarder sur quel effet ils devaient appuyer au bon moment. Donc nous, c'est vrai qu'on reprend un petit peu ça, on utilise beaucoup d'effets, mais c'est sûr qu'en live, on essaye d'avoir une esthétique beaucoup plus rock avec une cohésion de groupe plutôt prépondérante.
D'accord, on écoute un extrait. On a un petit problème technique. On va passer à la suite. En décembre 2022, Elena, vous avez gagné avec ton groupe le premier prix du concours circuit qui se veut être un tremplin pour les musiques alternatives et leurs nouveaux talents. Vous avez, entre autres, reçu un soutien financier du ministère de la Culture. Comment est-ce que cela vous a aidé pour construire votre EP ?
Pour l'EP, en fait, ça ne nous a pas aidé, donc, parce que quand on enregistre un EP, il faut savoir qu'il sort en général un an, voire plus d'un an après l'enregistrement, donc tout est déjà fait. Mais par contre, ça va nous aider énormément donc, pour la production de nouveaux morceaux, donc par exemple pour un prochain album.
Donc votre projet comporte 4 titres pour 17 minutes de musique. Est-ce que vous prévoyez la sortie d'un album plus long dans le futur du coup ?
Oui, évidemment. Et on a déjà pas mal de morceaux qu'on joue en live actuellement. Et cette EP, c'est un petit peu un tremplin vers ces morceaux-là. À partir de notre premier EP, c'est vraiment une transition vers tout ça.
D'accord. Vous êtes actuellement, donc, comme tu l'as dit, en tournée en Belgique. Vous jouez ce dimanche au Nu Botanique à Bruxelles et la date est déjà sold out. Vous jouez aussi au Festival de Dour le 14 juillet. Comment est-ce que vous anticipez d'aussi gros événements ?
En fait, on a justement, donc grâce au concours circuit, on a beaucoup d'encadrements, donc des résidences, des journées de studio et aussi beaucoup d'autres plus petits concerts qui nous permettent de tester des nouvelles choses, d'avoir des conseils, des avis et ça nous est extrêmement utile.
Merci Elena. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous à 16h pour les sports et à 18h pour le journal télévisé et sur la page Facebook du Studio Bus. À présent, place à notre séquence long format avec Adrien Dombly.
Bonjour Adrien.
Bonjour Cassandra, bonjour Guillaume.
Adrien, tu nous proposes une immersion auprès d'une classe de jeunes étrangers en plein apprentissage du français. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce sujet ?
Eh bien, je trouve que c'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Avec les différentes crises migratoires que beaucoup pointent du doigt, je trouvais important de se pencher sur ces jeunes qui se donnent corps et âme pour pouvoir s'intégrer au mieux à notre société occidentale. Et comme cette intégration, elle passe nécessairement par une bonne maîtrise du français, je voulais avoir le point de vue de ces jeunes sur l'efficacité des cours. Vous allez voir, j'ai rencontré des professeurs passionnés et des jeunes vraiment très déterminés.
Eh bien, je vous propose d'écouter ça tout de suite.
Comme tous les matins, Imram se rend à l'école. Mais à la différence des autres élèves, lui, c'est un jeune Afghan qui va apprendre le français.
Combien de questions les... Élève,
oui.
Élève, non, non, les poissons.
Ont-ils
posé les coulisses?
Lesquelles? Donc, combien de questions et quelles questions?
Depuis quelques années, l'école S2J à Liège propose des cours d'ASPA, soit dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés. Autrement dit, ce sont des cours de français et d'intégration pour les jeunes étrangers qui arrivent en Belgique et qui ne parlent parfois pas un seul mot de français. Madame Bouvy, une de leurs professeurs de français, explique l'importance pour eux d'une bonne maîtrise de la langue.
L'étape la plus difficile, c'est pas de comprendre le français. L'écrire, c'est déjà plus compliqué. L'étape la plus difficile, c'est de parler.
Et là, ils n'auront pas le choix. Et donc, il est là mon objectif. Et après, qu'ils s'écoutent et qu'ils se rendent compte qu'ils parlent mieux que ce qu'ils pensent. Ils maîtrisent mieux l'oral que ce qu'ils croient. Et ça, c'est important au niveau de la confiance en eux. Parce qu'au moment où ils auront confiance dans l'oral, alors ça ira mieux. À part Imran, c'est un cas particulier. Imran est plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, par exemple. Ça, c'est un peu chacun. Chacun a ses ressentis.
Imran aussi, il aime parler beaucoup.
Ouais, moi aussi, il aime parler beaucoup.
Ah, c'est de toi qu'il parlait justement. Sûr ?
Mais dans les centres, je parlais pas.
C'est vrai ?
Ouais.
Ouais, mais tu aimes bien l'école, Imran. Hein ?
Oui.
Pas les cours, mais venir à l'école, tu aimes bien.
Oui, oui. Mais les cours aussi, parfois, moi, j'aime bien. Mais parfois, c'est difficile. Quand je comprends pas, c'est pas écrit.
Il faut s'accrocher.
Oui.
Ouais, tu sais. Tu comprends mieux que ce que tu penses que tu comprends.
Oui, oui, oui.
Chaque élève a son histoire. Certains arrivent seuls, d'autres ont parfois un peu plus de chance, comme Ataoula, un des camarades de classe d'Imram.
Mon frère, il ne me laisse pas que je travaille. Il a dit, va toujours à l'école. Quand tu as besoin de quelque chose, je te donne.
Arrête.
Mais va toujours à l'école. Et grâce à mon frère, et grâce à ma belle-sœur, et voilà. Maintenant, moi, vu moi que je suis en Belgique dans 9 mois, que je parle comme ça français. Il y a des garçons comme ça qui a 2 ans, 3 ans, et là dans Belgique, ils ne parlent pas bien français, comme moi. Et voilà, je suis content que j'ai ma famille ici en Belgique.
Les primo-arrivants sont répartis en 4 groupes selon leur niveau de français. Imram et Ataoula sont dans le groupe B2, c'est le plus haut. Mais même ici, il faut savoir s'adapter aux différents profils, comme l'explique Madame Baouin, une autre professeure de français.
On adapte aux élèves aussi, vu que par rapport à nous aussi, on se dit ah ben, on aurait dû mettre l'accent là-dessus. Il n'y a pas vraiment de programme dans l'aspect, il n'y a pas de programme du tout. Donc c'est un peu nous, selon nos sensibilités, selon ce qu'on a fait, se rendre compte. En fait, on s'inspire des programmes qu'ils ont dans les classes ordinaires et on adapte un petit peu à une sauce pour que justement ce soit adapté au DASPA, en mettant peut-être plus l'accent sur la communication ou un peu plus le côté projet, on va dire, comparé à d'autres classes où des fois c'est plus, on va dire, respect du programme, vu qu'eux sont obligés de le respecter, nous on a plus de liberté, donc ça permet d'un petit peu partir un peu dans tous les sens, entre guillemets.
En maximum 2 ans, les jeunes sont censés acquérir toutes les compétences pour s'intégrer parfaitement dans la société. Pour cela, on leur propose également différents ateliers, comme celui d'hygiène, orchestré par Madame Voss.
On enlève les bijoux, et puis, on relève les manches, on retrousse les manches. On mouille les mains, on prend du savon et on frotte. D'abord la paume des mains, et puis le dos des mains, les pouces, les ongles, et puis je rince. Un le fait, les autres regardent, et vous dites si c'est bien ou si c'est pas bien.
Okay.
Ah oui, c'est froid. Oui, ça mousse bien. Je ne sais pas évaluer ce qu'ils vont vraiment garder. Est-ce que c'est plus de l'apprentissage de mots nouveaux, ou vraiment d'intégrer des notions d'hygiène.
Pour rapidement acquérir toutes ces compétences linguistiques et sociétales, les professeurs savent bien que les élèves ont besoin de concret.
On essaye de rendre tout concret, comme pour les questions avec Imran tantôt, lui dire, ben voilà, plus tard, tu auras besoin de ça. Si ce n'est pas concret, ça peut bloquer. Il faut que ce soit vraiment utilisable et applicable le plus vite possible pour avoir envie d'apprendre. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'apprendre tellement de choses que si on ne rend pas les choses concrètes, ils se disent « Ok, mais pourquoi on voit ça là maintenant ? Pourquoi on ne m'apprend pas des choses qui vont m'être utiles aujourd'hui ? Que je vais pouvoir utiliser aujourd'hui ou demain ?»
Si tu veux être éducateur, tu vas devoir poser des questions aux enfants, oui. Tu vas devoir dire « Pourquoi tu es en retard ?»
Je parlais, ça va, mais j'écris.
Oui, mais... Quand tu es éducateur, tu dois aussi écrire des rapports des fois et envoyer des mails où tu vas devoir poser des questions à la direction, aux parents, d'accord? Donc il faut aussi que tu apprennes à écrire des questions, ça c'est important. Et les parents, s'ils voient que tu fais des belles questions, que tu écris bien, ils sont plus rassurés pour leurs enfants, tu comprends ça?
Oui.
Le but ultime du DASPA, c'est que tous ces jeunes intègrent au plus vite des classes plus traditionnelles. Tous ces élèves sont donc déterminés à être intégrés et ont même une idée de leur futur métier, comme Ataoula, qui se voit déjà chauffagiste.
Je vais choisir le chauffage, le job. Chauffage, voilà, c'est facile aussi, je pense, quand même. Et j'aime bien aussi. Et moi, je suis capable de faire.
Les primo-arrivants se rendent assez vite compte de l'importance du français dans leur nouvelle vie, ainsi que de l'efficacité des cours.
La première année, quand j'étais venu à l'école, les deux jours, je dormais tous les jours. Je n'ai pas travaillé. Mais cette année, je dis non, un peu comprendre. Cette année, je travaille tout le temps. C'est facile maintenant. Avant, je ne suis pas parti à un magasin aussi. Je dis qu'il m'a parlé, je ne comprends pas. Je te donne avec mon ami l'argent. Allez, toi, je ne suis pas allé. Maintenant, j'y allais tout seul. Je prends un ticket pour les bus, pour le train. J'y allais tout seul.
Tous les professeurs décrivent des élèves reconnaissants et surtout très investis.
Abdoufta, par exemple, il arrive dans les rangs, il prend ma mallette. Quoi. On arrive dans le rang, c'est un grand sourire. Bonjour madame, comment ça va aujourd'hui? Un sourire sincère. C'est un autre rapport. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est un peu familial, on pourrait dire ça.
Ils sont beaucoup plus preneurs et rarement de oh, qu'elle nous veut, madame. Puis en plus, cette activité-là, au début, oui, je vais faire 20 minutes avec eux. Puis des fois, ça dure 50 minutes parce qu'ils sont dedans. Ils sont rarement problématiques à ce niveau-là, au niveau comportement ou au niveau application.
Des efforts d'intégration et des progrès linguistiques bien visibles et efficaces, mais la crainte d'un refus du permis de séjour persiste malgré tout.
Quand il y a venir personne ici et donner interview, après il est positif, il donnait papier de Belgique. Quand il est négatif, il n'a pas donné le papier de Belgique. Ça, c'est doux.
Depuis cet entretien, Imram a reçu une réponse négative à sa demande. Il a donc préféré quitter la Belgique après avoir pris le soin de dire au revoir à chacun de ses professeurs.
Merci Adrien pour ton reportage et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette folle semaine du Studio Bus. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de votre journal parlé.
Et pour clôturer ce journal, nous allons réessayer de vous proposer l'extrait du morceau Kiaran Deosin. En attendant, nous vous souhaitons une belle journée sur 48FM.